Chapitre 11e. Le dimanche matin, à l'heure indiquée par Madame Tristram, Newman sonnait à la porte du couvent. Une sœur robuste, de mine réjouie, sortit de sa loge pour le recevoir et sur le renseignement qu'il lui donna, indiqua de la main la porte ouverte de la chapelle, sur le côté droit d'une vaste cour, à l'extrémité de laquelle s'élevait une grande construction, froide et nue, sans fenêtre, comme un mur de prison. Newman monta les quelques marches qui donnaient accès et entra. Il ne distingua rien d'abord. La chapelle n'était que très faiblement éclairée par quelques cierges, et les vitraux de couleur sombre tamisaient la lumière extérieure. Le service, évidemment, n'était pas commencé. Mais peu à peu, ses yeux s'accoutumèrent à cette demi-obscurité, et il s'aperçut que la petite église était divisée en deux parties inégales par une haute balustrade de fer, dont les barreaux étaient si rapprochés les uns des autres et reliés entre eux par un treillage aux mailles si serrées, que c'est à peine si le regard pouvait pénétrer au-delà. C'est dans la partie antérieure de l'église et adossée à cette grille que se trouvait l'autel. À partir de la dernière marche et jusqu'à la porte d'entrée, les bas-côtés étaient garnis de rangées de dalles et de chaises. Quatre ou cinq personnes agenouillées y priaient, profondément absorbées dans leur dévotion, des mères sans doute, ou des sœurs d'autres femmes qui avaient eu le même courage impitoyable que Madame de Saint-Tré. Tout cela parut glacial à Newman. L'odeur même de l'encens lui produisait une étrange impression de froid. Il s'approcha doucement de la balustrade de fer, cherchant à regarder à travers les interstices du treillage. C'était là, derrière ce rempart, que devaient se réunir les carmélites. C'était là qu'elle devait être. Il ne put rien voir. Tout était sombre, rien ne bougeait. Au moment où il regagnait sa place, un prêtre et deux enfants de chœur arrivaient devant l'autel. Ils commencèrent à dire la messe. Newman suivit des yeux avec une sourde rage leurs génuflexions et leurs va-et-vient. Ils lui semblaient être les instigateurs et les aides de l'abandon, de la désertion de Madame de Saint-Tré. Les intonations traînantes et tristes du prêtre agissaient sur ses nerfs et augmentaient son indignation. Il trouvait quelque chose d'irritant dans cette inintelligible psalmodie. Tout à coup s'éleva des profondeurs de la chapelle, derrière l'inexorable grille, un bruit qui détourna son attention de l'autel, un chant lugubre et étrange, des voix de femmes. C'était le chant des religieuses carmélites, leur seul langage désormais, le De Profundis, de leurs affections ensevelies et de la vanité des joies et des désirs mondains. Newman fut d'abord étonné, presque abasourdi, de l'étrangeté de ce chant. Puis à mesure qu'il en comprit mieux la signification, il écouta plus attentivement et son cœur commença à palpiter. Ils crurent connaître au milieu de toutes ces voix uniformes celle de Madame de Saint-Tré. Ils se trompaient, nous sommes forcés de l'avouer. Madame de Saint-Tré n'avait certainement pas encore été admise à prendre place parmi les membres de la communauté. Le chant continua longtemps, mécanique et monotone, avec des répétitions et des cadences désespérantes. C'était horrible, c'était hideux. Newman, malgré son empire sur lui-même, avait peine à contenir son agitation. Il se sentit envahi par une insurmontable émotion et ses yeux se remplirent de larmes à la pensée que ce gémissement confus, impersonnel, était tout ce qu'il entendrait jamais de cette voix qu'il avait trouvée si suave et si douce. À la fin, son angoisse devint intolérable, il se leva brusquement et sortit de l'église. Sur le seuil, il s'arrêta encore un moment puis descendit à la hâte les marches du perron. Dans la cour, il aperçut la sœur portière en conférence avec deux personnes qui venaient d'entrer, et vraisemblablement demandaient, elles aussi, à jouir de la triste consolation d'entendre, sans la voir, quelques parentes aimées. Il reconnut presque aussitôt Madame de Bellegarde et son fils. Comme ils traversaient la cour, le marquis donnant le bras à sa mère, leurs regards se rencontrèrent. Newman fut frappé du trouble profond dont leur visage était empreint. C'était quelque chose comme l'humilité du désespoir, une expression de crainte et de confusion qu'il ne leur avait pas encore vue. Évidemment, les Bellegarde avaient peur de lui. Ils comprenaient sans doute que leurs grands airs protecteurs et hautains n'étaient plus de saison. Newman passa rapidement devant eux. Il lui tardait de sortir des murs de ce couvent et de se retrouver dans la rue. La porte s'ouvrit d'elle-même à son approche. Il sortit et la referma derrière lui. Une voiture s'éloigna à ce moment-là même, tournant l'angle du couvent. Il y jeta un regard distrait et lui sembla, à travers le brouillard dont ses yeux étaient voilés, qu'une dame le saluait. Mais la voiture avait déjà fait quelques pas au détour de la rue avant qu'il l'eût reconnu. C'était un vieux landau dont la moitié de la capote était baissée. Newman souleva son chapeau à tout hasard. Alors la dame dit au cocher d'arrêter. C'était Madame Urbain de Bellegarde avec sa petite fille. Newman hésita un instant à répondre à son appel. Elle lui faisait signe de la main en souriant gracieusement. À quoi bon, pensait-il, perdre son temps à parler à cet évaporé, puisqu'il avait été assez stupide pour laisser les autres s'échapper. S'être demandé si souvent comment il pourrait mettre la main sur eux, et avoir été assez fou pour ne pas les aborder tout à l'heure. Quelle occasion il avait perdue et comment retrouverait-il jamais un endroit plus topique que les murs de cette prison où ils avaient enterré vivante la malheureuse victime de leur égoïsme et de leur orgueil. Il avait été trop étonné au premier moment pour les arrêter, mais maintenant, il était décidé à les attendre à leur sortie. Madame de Bellegarde, avec une certaine vivacité engageante, lui fit signe de nouveau et cette fois il s'avança vers la voiture. « Ah, monsieur, dit la marquise en lui tendant la main, vous ne me rendez pas responsable de votre malheur, n'est-ce pas? Je n'y suis pour rien. »« Oh, je ne suppose pas que vous eussiez pu l'empêcher, répondit Newman avec sa franchise habituelle. « Ce que vous dites est trop vrai pour que je vous garde rancune du peu de cas que vous faites de mon influence. Je vous pardonne parce que vous avez l'air d'un homme qui vient de voir un spectre. J'en ai vu un, en effet. Je suis heureuse alors de ne pas être entrée avec Madame de Bellegarde et mon mari. Vous devez les avoir vus, hein? Quelle rencontre affectueuse. Avez-vous entendu les chants? On dit que c'est comme les lamentations des damnés. Je n'entrerai pas là pour un empire. On est toujours certain d'entendre ces choses-là assez tôt. Pauvre Claire, dans un linceul blanc et un grand manteau brun. C'est la toilette des Carmélites, vous savez. Eh bien, elle a toujours aimé les longs vêtements flottants. Mais je ne dois pas vous parler d'elle. Tout ce que je puis vous dire, c'est que je vous aurais aidé si j'avais pu, et qu'à mon avis, on a très mal agi à votre égard. J'en avais le pressentiment, vous savez, c'était dans l'air. Je le sentais 15 jours avant que la bombe éclata. Quand je vous vis au bal de ma belle-mère, prenant toute chose si gaiement, vous me faisiez l'effet de danser sur votre tombeau, mais qui pouvais-je? Je vous souhaite tout le bien possible. Il est vrai que ça ne vous avance pas beaucoup. Oui, leur conduite est indigne. Je n'ai pas la moindre peur de le dire et je vous assure que tout le monde a la même opinion. Nous ne sommes pas tous bâtis sur le même modèle. Je vous prie de le croire. Je suis, pour ma part, désolé d'être privé de vous voir à l'avenir. Vous savez que je vous trouve de fort bonne compagnie et je vous donne la preuve en vous priant de monter dans ma voiture et de faire route avec moi pendant un quart d'heure, avant que je revienne chercher ma belle-mère. Seulement, si on nous voit, eu égard à ce qui s'est passé, et chacun sait qu'on vous a remercié, on pourra croire que je vais peut-être un peu loin, même pour moi. Mais je vous reverrai quelquefois, n'est-ce pas? N'importe où. Ah, vous savez, ceci fut dit en anglais, nous avons un plan pour une petite partie. Newman, la main sur la portière de la voiture, écoutait, les yeux fermés, ces paroles incohérentes. C'était pour lui comme un murmure où il trouvait je ne sais quelle consolation. Il comprenait à peine ce que lui disait Madame de Bellegarde. Il avait seulement conscience de la futilité de ce bavardage sans conséquences possibles. Mais tout à coup l'idée lui vint qu'avec ses offres aimables de service, elle pourrait lui être utile et l'aider à arriver jusqu'à la douairière et au marquis. « Vos parents vont revenir bientôt? Vous les attendez ?»« Ils ne quitteront pas le couvent avant la fin de la messe, mais rien ne les y retiendra après. » Claire a refusé de les voir. « J'ai besoin de leur parler. Rendez-moi le service de différer votre retour de 5 minutes et laissez-moi ainsi l'occasion de les aborder. Je les attendrai ici. » Madame de Bellegarde joignit les mains d'un air de compassion. « Mon pauvre ami, que pouvez-vous leur vouloir? Leur demander de revenir sur le passé, ce sera bien inutile. Ils ne se déjugeront pas. N'importe, je vais leur parler. Je vous en prie, faites ce que je vous demande. Éloignez-vous et laissez-moi avec eux 5 minutes. » « Oh, ne soyez pas effrayé, je ne serai pas violent. Vous le voyez, je suis très calme. »« Oui, vous paraissez calme. S'ils avaient le cœur tendre, vous les fléchiriez, mais ils ne l'ont pas. »« Cependant, je ferai pour vous mieux encore que vous ne demandez. Il est convenu que je ne retournerai pas les prendre à la sortie du couvent, que j'irai au contraire prendre ma fille au parc Monceau, où ma belle-mère me rejoindra. Elle sort si rarement et surtout dans ce quartier qu'elle profitera de l'occasion pour prendre l'air. » Nous devons donc nous retrouver dans le parc. Suivez-moi maintenant. Devant la grille, je descendrai de voiture. Asseyez-vous sur une chaise, dans quelque allée retirée. Je ferai en sorte d'amener Madame de Bellegarde et mon mari de votre côté. Après cela, vous ne direz plus, n'est-ce pas, que je ne vous suis pas dévoué? Le reste vous regarde. Ce plan semblait fort bien combiné et la proposition ne pouvait qu'être favorablement accueillie. Décidément, cette petite femme n'était pas si bête qu'elle en avait l'air. Newman lui promit d'exécuter à la lettre ses recommandations et la voiture s'éloigna. Le parc Monceau est un merveilleux jardin. Mais Newman fit peu d'attention à son élégance et à sa végétation pleine de la fraîcheur du printemps. Il trouva Madame de Bellegarde assise dans un de ces coins tranquilles dont elle lui avait parlé, pendant que devant elle, dans l'allée, sa petite fille, suivie d'un balai de pied et d'un petit habanais, se promenait de long en large comme si elle prenait une leçon de maintien. À peine se fut-il assis à côté d'elle, que la marquise mit la conversation sur Madame de Saint-Tré, s'efforçant de le convaincre que la pauvre Claire n'avait pas le type vraiment fascinateur de la femme. Elle était trop grande et trop maigre, trop froide et trop hautaine. Sa bouche était trop large et son nez trop mince. Elle n'avait pas de fossette. Et puis elle était excentrique, excentrique à froid, anglaise, en un mot. Comment cela ne le frappait-il pas? Newman, impatient, fiévreux, comptait les minutes, attendant ses victimes. Il restait là, silencieux, appuyé sur sa canne, les yeux vaguement fixés sur la petite marquise, inconscient de ce qu'elle disait. À la fin, Madame de Bellegarde se leva. « Je vais aller à leur rencontre jusqu'à la grille du parc, » fit-elle. Mais au moment de s'éloigner, elle parut hésiter, baissa les yeux, et après avoir joué quelques instants avec les dentelles de sa manche, regarda de nouveau Newman. « Vous souvenez-vous de votre promesse il y a 3 semaines ?» Et comme Newman, consultant vainement sa mémoire, déclarait ne se souvenir de rien de semblable, « Oh, » continua-t-elle, « vous m'avez fait à cette époque une réponse très bizarre et que j'étais en droit, considérant la chose au point de vue du résultat, de prendre pour une offense. Vous m'avez promis de mener à Bullier, après votre mariage. Après votre mariage. Vous avez insisté sur ce point. 3 jours plus tard, votre mariage était rompu. Savez-vous quelle a été ma première pensée en apprenant la nouvelle? Oh mon Dieu, il ne me conduira pas à Bullier. Et réellement, je me suis demandé si vous ne vous attendiez pas à cette rupture. Oh, chère madame, murmura Newman, regardant dans l'allée si les autres n'arrivaient pas. « Je serai de bonne composition, » reprit Madame de Bellegarde. « On ne doit pas trop demander à un homme amoureux d'une nonne cloîtrée. De plus, je ne puis aller à Bullier pendant que nous sommes en deuil, mais je n'ai pas renoncé pour cela. La partie est arrangée, j'ai mon cavalier, Lord Dipmer, s'il vous plaît. Il est maintenant dans son cher Dublin, mais d'ici à quelques mois je peux lui indiquer tel soir que je voudrais, et il reviendra d'Irlande tout exprès. » C'est ce que j'appelle de la véritable galanterie. » Ce disant, Madame de Bellegarde s'éloigna avec sa petite fille. Newman resta assis à sa place. Le temps lui semblait terriblement long. Le quart d'heure passé dans la chapelle du couvent avait exaspéré sa rage. Cependant, résolu à conserver son calme dans cette entrevue suprême, il avait assez d'empire sur lui-même pour modérer l'expression de la sourde colère qui l'agitait, tout comme il aurait réglé le jet de flamme d'un bec de gaz. Son sang-froid naturel, son jugement, sa circonspection, sa conviction absolue que les paroles sont des actes et que les actes sont des pas dans la vie, que marcher par des tours et par bonds est exclusivement réservé aux quadrupèdes et aux étrangers, tout l'avertissait qu'une légitime colère n'a rien de commun avec la brutalité et la violence de langage qui se donnent en spectacle. Quand donc il se leva, en apercevant au bout de l'allée la jeune Madame de Bellegarde avec sa fille et son valet de pied, et quelques pas plus loin, le marquis qui marchait lentement, donnant le bras à sa mère, il se sentit tout à fait maître de lui, d'une inaltérable sérénité. Quoiqu'il se trouvât près d'un bosquet qui devait le cacher à la vue, M. de Bellegarde l'avait évidemment déjà aperçu. Il n'en continua pas moins son chemin d'un air d'indifférence affectée, en parlant tout bas à sa mère. Mais quand Newman se plaça devant eux au milieu de l'allée, ils furent bien forcés de s'arrêter. L'Américain souleva son chapeau en les regardant en plein visage. Ils étaient pâles d'étonnement et de dédain. « Pardonnez-moi de vous arrêter, » dit-il d'un ton très bas. « Mais il me faut profiter de l'occasion. J'aurai quelques mots à vous dire. Voulez-vous les écouter ?» Le marquis lui lança un coup d'œil féroce, puis se tournant vers sa mère. « Monsieur Newman peut-il vraisemblablement avoir quelque chose à nous dire qui vaille la peine que nous l'écoutions ?»« Je vous assure que oui. » dit Newman. De plus, c'est mon devoir. J'ai une notification à vous faire, un avertissement à vous donner. Votre devoir ? Répéta la vieille marquise, ses lèvres minces plissées comme un papier desséché. C'est la votre affaire et non la vôtre. Oh, si M. Newman fait une scène en public, s'écria Madame Urbain, en prenant sa petite fille par la main avec un geste de surprise et d'impatience d'un effet dramatique dont une actrice aurait été jalouse, je sauve ma pauvre enfant de la mêlée. Elle est trop jeune pour être témoin d'un pareil esclandre. Et il continua sa promenade. « Vous feriez mieux de m'écouter, » reprit Newman. « Que ce soit de bonne volonté ou non, les choses n'en seront pas moins désagréables à entendre. En tout cas, ce sera toujours pour vous un avant-goût de ce que je vous réserve. » « Ce n'est pas la première fois que nous avons à subir vos menaces, » dit le marquis, « et vous savez ce que nous en pensons. » « Vous en pensez beaucoup plus qu'il ne vous plaît d'avouer. »« Un moment, » ajouta Newman en réponse à une exclamation de la marquise. « Je n'oublie pas que nous sommes dans un lieu public, et je suis parfaitement calme comme vous voyez. Je n'ai nullement l'intention de révéler votre secret aux passants. Je le garde, pour commencer, pour quelques personnes de choix. » Quiconque nous remarquera ici nous croira en conversation amicale. On s'imaginera que je vous complimente, madame, sur vos vénérables vertus. » Le marquis frappa fébrilement de sa canne le sable de l'allée. « Je vous prie de vous écarter de notre chemin, » dit-il, les dents serrées. Newman obéit à l'instant et M. de Bellegarde fit quelques pas en avant avec sa mère. D'ici à une demi-heure, madame de Bellegarde regrettera de n'avoir pas écouté attentivement ce que j'ai à lui apprendre. À ces mots, prononcés lentement et d'un ton presque solennel, la marquise s'arrêta. Après un instant de légère hésitation, elle se retourna et regarda Newman en face. Ses yeux scintillaient comme deux blocs de glace. « Vous faites l'effet d'un colporteur qui a quelque chose à vendre, » dit-elle avec un petit rire, dédaigneux, sous lequel elle s'efforça de dissimuler le tremblement de sa voix. « Oh non, pas à vendre, » répliqua Newman. « Je vous le donne pour rien, au contraire. » Il se rapprocha d'elle, et la regardant dans le blanc des yeux, dit à voix basse. « Vous avez tué votre mari, ou plutôt, vous avez essayé une fois et manqué votre coup, et puis, sans essayer de nouveau, vous avez réussi. » Madame de Bellegarde ferma les yeux et toussa légèrement. « Chère mère, » fit vivement le marquis, « est-ce que cette plaisanterie vous amuse beaucoup ?»« Le reste est plus amusant encore, » dit Newman, « je vous engage à n'en rien perdre. » Madame de Bellegarde rouvrit les yeux. Ils ne scintillaient plus, ils étaient fixés comme morts. Mais le même sourire hautain, plus méprisant peut-être que tout à l'heure, avait reparu sur ses lèvres minces et elle répéta le mot de Newman. « Amusant. » « Et je n'ai tué personne d'autre? Cherchez bien. » « Je ne compte pas votre fille. J'en aurai le droit, cependant. Votre mari vous a vu à l'œuvre. J'en ai la preuve. Une preuve dont vous n'avez jamais soupçonné l'existence. » Il se tourna vers le marquis aussi pâle qu'un spectre. « Un papier, écrit, de la main, signé du nom d'Henri Urbain de Bellegarde, écrit après que vous, madame, l'aviez laissé pour mort, et après que vous, monsieur, étiez parti, sans vous presser beaucoup, pour chercher un médecin. » Le marquis lança un rapide coup d'œil à sa mère qui se détourna, regardant vaguement autour d'elle. « J'ai besoin de m'asseoir, » murmura-t-elle en s'avançant vers le banc que venait de quitter Newman. « Ne pouviez-vous me dire cela à moi seul ?» s'écria le marquis, regardant Newman. « En effet, oui, si j'avais été certain de pouvoir parler aussi à votre mère en particulier. Mais j'ai dû m'adresser à vous comme j'ai pu, en saisissant l'occasion. » Madame de Bellegarde avait retiré son bras de celui de son fils. Elle alla s'asseoir sur le banc, croisa ses mains sur ses genoux et regarda Newman en face. Au premier moment, il crut qu'elle souriait, mais un second coup d'œil lui suffit pour voir combien ses traits si élégants et si fins étaient profondément altérés. Elle mettait évidemment toute la force de son inflexible volonté à résister à son agitation, et il n'y avait rien de semblable à la crainte ou à la soumission dans son regard dur et hautain. Elle avait été surprise, étonnée, mais non terrifiée. Newman eut en cet instant comme un pressentiment qu'elle sortirait saine et sauve de ses griffes. Madame de Bellegarde jeta à son fils un coup d'œil qui semblait être, pour ainsi dire, une injonction de garder le silence et de la laisser se tirer d'affaire elle-même. Le marquis s'assit alors auprès d'elle, mit ses mains derrière le dos et attendit. « De quel papier parlez-vous ? » demanda la vieille femme du ton le plus tranquille en apparence. « C'est exactement ce que je vous ai dit, un papier écrit par votre mari, après que vous l'aviez laissé pour mort et durant votre absence d'une ou deux heures. Vous vous rappelez, n'est-ce pas ? Vous voyez, il a eu le temps d'écrire. Vous n'auriez pas dû vous éloigner si longtemps. Il déclare sans embâge ni circonlocution l'intention meurtrière de sa femme. Je ne serais pas fâché de voir cet écrit. Je le pensais bien, aussi en ai-je pris copie. » Il tira de la poche de son gilet un petit papier plié. « Donnez-le à mon fils. » « Examinez cela, Urbain. » M. de Bellegarde aurait en vain cherché à dissimuler son agitation. Il prit fébrilement le papier dans ses doigts gantés et l'ouvrit. Il y eut un long silence. Le marquis lut et relut avidement. Il ne protesta pas. Il restait là, les yeux fixés sur le papier accusateur qui semblait le fasciner. « Où est l'original ?» demanda tout à coup la marquise. « Oh, dans un endroit tout à fait sûr. Naturellement, je ne puis vous le montrer, » répondit Newman, et il ajouta avec une naïve franchise, « Vous vous laisseriez peut-être aller au désir de vous en emparer, et c'est là une tentation que je ne dois pas vous donner. Mais cette copie est parfaitement correcte, excepté, cela va sans dire, l'écriture. Je garde l'original pour le montrer à quelques personnes de choix. » Monsieur de Bellegarde leva enfin la tête. « Et à qui, s'il vous plaît ?»« Oh, je pense commencer par la duchesse, cette grosse dame que j'ai vue à votre bal. Elle m'a demandé ce soir-là d'aller lui rendre visite, vous savez. Je ne croyais pas alors avoir grand intérêt à profiter de son invitation, car je n'aurais trop su que lui dire. Mais maintenant, mon petit document nous fournira un sujet de conversation. » « Vous feriez bien de garder cette copie, mon fils, » dit la marquise. « Oh, parfaitement, » répliqua Newman, « gardez-la. » Et vous la montrerez à madame votre mère quand vous serez de retour chez vous. » Et après l'avoir fait voir à la duchesse, demanda le marquis en pliant le papier, « Eh bien, j'en donnerai communication à messieurs les ducs, puis au comte et au baron, et à tous les grands personnages auxquels vous avez eu la cruauté de me présenter, envers qui vous m'avez fait jouer un rôle ridicule. J'ai dressé une liste. » Pendant un moment, madame de Bellegarde et son fils ne trouvèrent pas un mot à répondre. La douairière restait immobile, les yeux fixés sur le sol. Monsieur de Bellegarde ne la quittait pas du regard. C'est tout ce que vous avez à nous dire ? Demanda-t-elle brusquement à Newman. Non, je désire ajouter quelques mots. Vous comprenez, j'espère, quelle est mon intention. C'est une revanche, vous vous en doutez, n'est-ce pas ? Vous m'avez traité devant vos amis, invité, tout exprès par vous, comme si je n'étais pas digne de m'allier à votre noble maison. J'ai l'intention de prouver à ces messieurs, à ces dames, que si bas placé que je sois, ce n'est pas à vous, en tout cas, à faire fi de moi. » Madame de Bellegarde ne broncha pas. Son empire sur elle-même était vraiment extraordinaire. On aurait dit qu'elle n'admettait même pas que cette menace de Newman valût la peine d'arrêter un seul instant son attention. Elle attaqua, au lieu de rompre. « Je n'ai pas besoin de vous demander quel est votre complice. Mrs. Braid m'a avoué que vous aviez acheté ses services. » « N'accusez pas Mrs. Braid de vénalité, » répliqua Newman. « Elle a gardé votre secret jusqu'à ce jour. » Elle vous a laissé un long temps d'impunité. Ce fut sous ses yeux que votre mari écrivit cette lettre. Il la lui remit en main propre, avec l'injonction formelle de la rendre publique. Mais elle avait trop bon cœur pour en faire usage. La douairière parut hésiter un instant. « Elle a été la maîtresse de mon mari, » dit-elle doucement. Ce fut la seule concession à se défendre elle-même qu'elle condescendit à faire. « J'en doute, » dit Newman. Madame de Bellegarde se leva. « Ce n'est pas de votre opinion que j'ai souci, et si vous n'avez rien d'autre à m'apprendre, je pense que cette remarquable entrevue peut en rester là. » Et se tournant vers le marquis, dont elle prit de nouveau le bras. « Mon fils, dites quelque chose. » Monsieur de Bellegarde la regarda, se passa la main sur le front, visiblement embarrassé. « Que dirais-je » demanda-t-il. « Une seule chose, c'est que cela ne valait vraiment pas la peine d'interrompre notre promenade. » Le marquis ne sembla pas être de cet avis. Il se tourna vers Newman. « Ce papier est un faux !» L'Américain secoua la tête avec un tranquille sourire. « Monsieur de Bellegarde, votre mère se conduit mieux que vous. Elle était meilleure pour moi, du reste, depuis le premier jour de notre connaissance. Vous êtes une femme vraiment remarquable, madame, et c'est grand dommage que vous ayez fait de moi votre ennemi. J'aurais été l'un de vos plus grands admirateurs. » « Mon pauvre ami, » dit madame de Bellegarde à son fils, comme si elle n'avait pas entendu. « Reconduisez-moi à la voiture, je vous prie. » Newman circula pour les laisser passer. En les suivant des yeux, il vit madame Urbain sortir d'une contre-allée avec sa fille et venir à leur rencontre. La douairière se baissa pour embrasser sa petite fille. « Que le diable l'emporte ! C'est une fière femme, » s'écria-t-il. « Quel ton de défi incroyable et quelle puissance de volonté !» Il retourna chez lui avec un vague sentiment d'avoir été joué. En y réfléchissant cependant, il conclut que la vieille marquise devait être moins assurée et encore moins innocente que son air d'assurance effrontée voulait le faire croire. « Attendons qu'elle ait lu le papier, » pensa-t-il, « mais avis que j'entendrai parler d'eux avant peu. » Son espoir se réalisa plus tôt qu'il ne s'y attendait. Le lendemain matin, avant midi, au moment même où il allait se mettre à table, on lui remit la carte de Monsieur de Bellegarde. « Ah, elle a lu le billet et a passé une mauvaise nuit. Faites entrer, monsieur le marquis. » Celui-ci s'avança comme l'ambassadeur d'une grande puissance se rencontrant avec le délégué d'une tribu sauvage, qu'un absurde accident s'est chargé de rendre abominablement embarrassant pour un instant. L'ambassadeur, en tout cas, avait dû passer une nuit sans sommeil, et sa toilette correctement soignée ne servait qu'à faire ressortir davantage la froide haine de son regard et les tons blafards de son teint. Il resta un moment devant Newman, respirant vite et par saccades, et saluant légèrement de la main quand son hôte lui indiqua un fauteuil. « Ce que je suis venu vous dire sera bientôt dit, » commença-t-il, « et n'a pas besoin de grandes cérémonies. Je suis prêt à entendre ce que vous avez à me communiquer, que ce soit peu ou beaucoup. À quelles conditions voulez-vous céder votre chiffon de papier ?»« À aucune. Oh, si vous n'avez pas d'autres propositions à me faire, ce n'est vraiment pas la peine de vous asseoir. » M. de Bellegarde réfléchit quelques instants comme s'il n'avait pas entendu le refus de Newman. « Ma mère et moi, hier au soir, nous avons parlé de tout cela. Vous serez peut-être surpris de l'apprendre, mais nous pensons que votre petit document est... » Il hésita un moment à prononcer le mot. « Est vrai. » « Vous oubliez qu'avec vous, je suis habitué aux surprises, » s'écria en riant Newman. « Quelque peu de respect que nous devions à la mémoire de mon père, » continua le marquis sans relever l'interruption, « nous désirons laisser ignorer au monde qu'il est l'auteur d'une si odieuse attaque contre la réputation d'une femme dont la seule faute a été d'être faible contre des injures accumulées. « Oh, je vois, » dit Newman, « c'est pour la mémoire de votre père. » Et il se mit de nouveau à rire, comme c'était son habitude dans ces moments de plus grande satisfaction, d'un petit rire silencieux, les lèvres fermées. Monsieur de Bellegarde ne se départit pas de sa gravité. « Il n'y a plus que fort peu d'amis de mon père pour qui la connaissance d'une si malheureuse inspiration serait un réel chagrin. Mais même si nous établissions d'une façon péremptoire, par des certificats de médecin, la présomption d'un désordre d'esprit par suite de la fièvre, il en resterait toujours quelque chose, et si peu que ce fût, ça serait encore trop. Oh, n'essayez pas de certificat de médecin, ne touchez pas au médecin. Il m'est d'ailleurs parfaitement indifférent que vous sachiez que je ne l'aurais pas écrit et ne tient pas de mes renseignements. » Newman s'imagina lire sur le visage décoloré de M. de Bellegarde la preuve que ce renseignement venait fort à propos. Peut-être se trompait-il après tout, car le marquis n'en continua pas moins son raisonnement du même air majestueux. « Par exemple, Madame d'Outreville, dont vous parliez hier, rien, j'en suis certain, ne l'affligerait davantage. Oh! « Je suis tout à fait décidé à affliger Madame d'Outreville, vous savez, et sans la moindre hésitation. Elle est sur ma liste. J'ai l'intention d'affliger un grand nombre de personnes. » M. de Bellegarde examina un instant les piqûres de l'un de ses gants, puis, sans lever les yeux, « Nous ne vous offrons pas d'argent, » dit-il, « nous supposons que ce serait inutile. » « Alors, que m'offrez-vous ? D'après ce que je crois deviner, dans votre pensée, ce sera moi seul d'être généreux. » « Nous vous offrons... » reprit le marquis en relevant un peu la tête, « nous vous offrons une chance. Et une chance qu'un gentleman apprécierait certainement. La satisfaction de pouvoir se dire « je me suis abstenu de porter un terrible coup à la mémoire d'un homme qui peut-être a été coupable, mais qui, personnellement, ne m'a rien fait. » « J'aurais deux choses à répondre à cela, » répliqua Newman. « Premièrement, pour ce qui est de l'appréciation de votre chance, vous ne me considérez pas comme un gentleman. » C'est là votre grand cheval de bataille, vous savez. Secondement, eh bien, en un mot, vous venez de dire une grande bêtise. Newman, qui malgré sa sourde colère avait conscience de s'être tenu jusque-là dans une certaine modération de langage, comprit immédiatement la vivacité de ses dernières paroles. Mais il remarqua en même temps que le marquis les prenait plus tranquillement qu'il n'aurait cru. Monsieur de Bellegarde, en ambassadeur solennel, semblait ignorer ce qu'il y avait de désagréable dans les répliques de son adversaire. Il regardait les arabesques dorées des murs et, de temps à autre, reportait ses yeux sur Newman, comme s'il n'eût été pour lui qu'une des choses grotesques de ce salon, trop surchargé d'ornements de mauvais goût. « Vous vous êtes rendu compte, je présume, du résultat que cela aura pour vous, personnellement. Qu'entendez-vous par là ? Eh bien, cela va sans dire. Vous vous compromettez vous-même ? Mais c'est peut-être dans votre programme. Vous vous proposez de nous jeter de la boue au visage. Vous croyez, vous espérez qu'elle nous atteindra et que nous en serons souillés. Nous savons naturellement que c'est impossible, continua le marquis d'un ton de suprême confiance. Mais enfin vous essayerez. Et en tout cas, une chose sera indéniable, c'est que vous vous serez sali les mains en remuant cette boue. C'est une assez bonne comparaison, du moins la moitié est indiscutable, observa Newman. Je remuerai de la boue en effet. Quant à mes mains, rassurez-vous, elles ne seront pas salies. J'aurai soin de me servir de pincettes. Monsieur de Bellegarde regarda un moment le fond de son chapeau. Tous nos amis, sans exception, sont avec nous. Ils auraient agi comme nous avons agi. Je le croirai quand je leur aurai entendu dire à eux-mêmes. En attendant, permettez-moi d'avoir meilleure opinion de la nature humaine. Madame de Saint-Tré, reprit le marquis sans lever les yeux, aimait beaucoup son père. Si elle connaissait l'existence de cet écrit, dont vous vous proposez de faire un si scandaleux usage, elle vous demanderait avec fierté, en souvenir de lui, de le lui rendre et le détruirait sans le lire. C'est fort possible. Mais Madame de Saint-Tré n'en saura rien. J'étais dans le couvent hier et je sais ce qu'on y devient. Que Dieu ait pitié d'elle. Pensez si ce souvenir m'engage à oublier le passé. Monsieur de Bellegarde semblait n'avoir plus rien à dire. Il continuait cependant à rester là, avec le même maintien élégant et sévère, comme un homme convaincu que sa présence seule est un argument de valeur. Newman l'examinait en silence. « Vous le voyez, dit-il enfin, votre visite ne vous a servi à rien. Vous m'avez offert trop peu. »« Faites votre prix vous-même, répondit vivement le marquis. Rendez-moi à Madame de Saint-Tré. » Monsieur de Bellegarde rejeta la tête en arrière et sa face pâle rougit tout à coup. « Jamais, fit-il. Vous ne pouvez pas. Quand bien même nous le pourrions, nous ne le voudrions pas. Rien n'est changé dans le sentiment qui nous a porté à la supplier de ne pas vous épouser. « Supplier est charmant, » s'écria Newman. « Il était à peine utile de venir ici seulement pour me dire que vous n'aviez pas honte de vous-même. Je m'en doutais suffisamment. » Le marquis s'avança lentement vers la porte. Au moment de l'ouvrir, il se retourna. « Ce que vous vous proposez de faire nous sera extrêmement désagréable. C'est de toute évidence. Mais ce ne sera rien de plus. » « Comme je comprends la chose, » répondit Newman, « ce sera tout à fait assez. » Monsieur de Bellegarde hésita un instant avant de sortir. Le regard fixé sur le parquet, il cherchait sans doute ce que son esprit ingénieux, fécond en ressources, pourrait tenter de plus pour sauver la réputation de son père. Alors, avec un léger soupir, il sembla avouer qu'il abandonnait à regret le feu marquis au châtiment de sa turpitude. Il salua d'un mouvement d'épaule imperceptible, prit son parapluie des mains du domestique dans l'antichambre et de son pas majestueux sortit de l'appartement. Newman, sur le palier, attendit jusqu'à ce que la porte cochère se fût fermée. Alors, lentement, il rentra dans son salon en s'écriant : « Eh bien, je dois commencer à être satisfait maintenant. »